Radio Kapi.
Conditions humanitaires de plus de 17 000 déplacés dus à l'insécurité dans le territoire des Rutshuru. Les acteurs de ces secteurs signalent que les indicateurs sont au rouge quant à leur survie, logement, alimentation et santé. Il y a donc nécessité d'intervention urgente d'après ce reportage que nous vous proposons en ouverture de ce journal. Qualité des produits alimentaires à Ituri, à Bunia ou Guéti, on en parle tout de suite. Il y a vraiment à s'inquiéter, des conserves avariées et autres vivres sont vendus pour consommation. Les services de santé et la société civile interpellent les structures censées veiller sur la qualité. Importation, exportation des produits via Bunagana interdite. Pourquoi et que faire par les opérateurs économiques? Entretien en fin de ce journal avec David Kamoua. Il est conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en charge des finances. C'est un plaisir pour nous de partager ces 20 minutes d'infos sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, merci de votre confiance. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Billy Van Lutumba devant ce micro pour la présentation de ce journal. Avant tout, cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Vital Kamerhe est acquitté par la cour d'appel de Kinshasa Gombe ce jeudi. Selon un de ses avocats qui confirme l'information, le président de l'UNC a été renvoyé de fin de poursuite, donc blanchi dans l'affaire du détournement présumé des fonds alloués au programme d'urgence des 100 jours du président de la République. L'audience qui était prévue pour demain vendredi s'est transformée en une communication de l'arrêt de la cour au parti au procès sans extrait de rôle. On écoute Maître Pouloussi Eka Hugues qui confirme cet acquittement au micro de Jeff Ngoy.
Oui, je confirme que notre client, M. Kamerhe, a été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Donc, les infractions de détournement et de corruption mises à sa charge ont été déclarées non établies en fait comme en droit par la dite cour. Donc, je confirme l'information.
Nous avons essayé de joindre les avocats de la partie civile sans succès. Mais le greffe pénal de la cour d'appel de la Gombe a également confirmé cet acquittement après quelques tâtonnements. Nord Kivu, les agglomérations des Rutshuru Centre et la cité de Kiwanja continuent d'accueillir des nouveaux déplacés en provenance des zones de combat entre FARDC et rebelles du M23. Au moins 17 000 nouvelles personnes déplacées y sont arrivées depuis mars dernier selon les humanitaires. Logées dans des écoles, des stades et d'autres espaces collectifs ou dans des familles d'accueil, ces personnes vulnérables vivent dans des conditions alimentaires et sanitaires difficiles, affirment les humanitaires. Ces derniers déplorent également le fait que les interventions humanitaires soient entravées par la persistance des violences dans le territoire des Rutshuru. Denise Lukeso.
Parmi les nouveaux arrivés, environ 3000 personnes vivent dans une forte promiscuité au stade de Rugabo à Rutshuru Centre selon Ocha. Les 17 abris communautaires construits par les ACR deviennent insuffisants, toujours selon Ocha qui déplore que les ressources financières et l'accès humanitaire soient limités. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile de Rutshuru, dit pour sa part craindre l'apparition des maladies diverses au regard des conditions difficiles de se déplacer. Il appelle à la solidarité nationale et internationale.
Ils sont en train d'errer dans la cité, en train de quémander. Je peux vous rassurer que si rien ne fait, en tout cas très bientôt, on va assister à des décès suite aux faim, même des maladies hydriques. Tout ça, c'est vraiment des enjeux qui courent, se déplacer, qui semblent être négligés. Et ce soit du côté du gouvernement, même des humanitaires, ils n'arrivent vraiment pas pour secourir, se déplacer en danger. Donc le gouvernement est en tout cas le premier parent qui doit venir assister ces populations.
Depuis mars dernier, au moins 158 000 personnes sont en situation de déplacement dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo suite aux affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Nord Kivu, la situation est calme mais demeure très volatile ce jeudi dans les groupements de Jomba et celui de Kisigari dans le territoire des Rutshuru. Aucun tir n'a été entendu dans ces entités depuis hier, mercredi, après les derniers affrontements qui y avaient opposé, il y a deux jours, les FARDC aux rebelles du M23. Les sources coutumières locales dressent finalement un bilan de 17 civils tués au lieu de 13, comme initialement annoncé. Bernard Nyangi.
Aucune détonation n'a été entendue durant toute la journée d'hier mercredi à ce jeudi dans la matinée dans cette zone de combat, indiquent les sources coutumières et la société civile locale de Rutshuru. D'après ces sources, cette accalmie est interprétée comme un calme avant la tempête dans la mesure où les rebelles du 1-23 pourraient profiter de ce moment pour consolider leur position dans la partie de la localité de Nkokwe qu'ils occupent depuis mardi soir. Les regards sont désormais orientés sur le village de Kabaya et sur la base militaire de Rumangabo à moins de 10 km à l'ouest de Nkokwe. Les témoignages des habitants de Ruvumu, Buaro et Rutakara, relayés par nos sources, indiquent que le bilan des affrontements de mardi du côté civil a été revu à la hausse. 17 civils auraient été tués si on se fie aux déclarations des habitants qui les auraient enterrés hier sous la supervision des rebelles. Rappelons que ces trois villages de la localité de Nkokwe sont passés sous contrôle des rebelles à l'issue des affrontements de mardi. Les mêmes affrontements avaient mis sur le chemin d'exil les habitants d'au moins 8 autres villages de groupement de Kisigari et Bweza notamment. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Le commissariat provincial de la police de Kinshasa a présenté ce mercredi en son siège près de 10 personnes arrêtées, certaines pour xénophobie, d'autres pour utilisation des tenues apparentées à celles des militaires. C'est que les autorités du pays et de la ville interdisent en cette période des guerres au Nord Kivu. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, général Silvano Kasongo, dans cet extrait choisi par Jiré Anania.
Vous avez suivi sur l'expérience de ce vice-premier ministre de l'Intérieur pour ce qui concerne les ports de tenues semblables à celles de l'armée ou de la police. Les ports sont vraiment interdits. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion parce que nous sommes dans une situation critique. Toute personne qui a cette tenue-là n'a qu'à déposer au commissariat ou au poste de police le plus proche ou dans un bureau de sécurité. Nous déplorons la situation qu'après avoir dit le mois passé. Les Kinois sont des peuples hospitaliers. On n'a jamais eu de problème. Nous sommes des croyants. Il y a quelques individus qui ont tenté d'interpeller, mais ils sont là, on les a présentés. Demandons seulement que les gens puissent se comporter en suivant la loi et en suivant.
Par ailleurs, général Silvano Kasongo appelle tous ceux qui détiennent ces types de tenues à les déposer auprès de la police, de l'armée ou de tout autre service de sécurité. Il précise tout de même que des vêtements et t-shirts portant mention soutien au FRDC ne sont pas concernés par cette mesure d'interdiction. En Ituri, deux personnes dont un enfant sont mortes et deux autres blessées à la suite de l'explosion d'une grenade et une mine antipersonnelle dans les villages Sikumbili et Gokpa situés respectivement dans les territoires d'Irumu et de Djougou. Selon des sources locales, ces engins seraient posés par les belligérants pendant les combats dans ces entités. Les autorités coutumières déplorent l'absence de services de déminage pour identifier d'autres engins qui constituent une menace permanente pour la population. Récit de Isaac Kremoyope.
La dernière victime de ces engins explosifs est un enseignant de l'école primaire Ouassa en secteur de Walindupiti dans les territoires de Djougou. Il s'est rendu au champ mercredi dans la forêt de Wago, affirme les services de protection civile de l'Ituri. Il a marché sur une mine antipersonnelle qui a déchiqueté son corps et il est mort sur place. Cette mine serait posée lors des opérations militaires dans la zone contre les groupes armés Codeco, ajoute la même source. Le lundi dernier, trois enfants ont ramassé une grenade dans la cour de leur parcelle au village Sikumbili, dans la chefferie de Mobal à environ 45 km aussi de Bounia. Ils s'en ont servi comme un ballon pour se divertir, rapporte l'autorité locale. La grenade a explosé, un enfant est mort sur place et deux autres ont été grièvement blessés et acheminés dans une structure sanitaire. L'origine de cet engin n'est pas déterminée, mais des sources locales attribuent cela aux belligérants FRDC et la milice F qui s'affrontaient dans la zone. Elles plaident pour l'intensification des opérations de fouilles des engins explosifs dans les anciennes zones à conflit pour prévenir d'autres dégâts. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle en Ituri, des produits avariés sont commercialisés dans les marchés, boutiques et alimentation dans la ville de Bounia et environ. Ce phénomène s'observe dans les centres commerciaux à l'intérieur de la province, notamment à Guéti, selon la police chargée de crimes économiques et la société civile locale. Des experts en santé indiquent que ces aliments peuvent créer des troubles digestifs pouvant conduire jusqu'à la mort. Martial Kizabiamungu s'est penché sur ce problème, voici son reportage.
À Bounia, les denrées alimentaires sont visibles en vente dans les marchés, magasins et autres boutiques ou encore avec les vendeurs ambulants. On peut citer entre autres l'huile végétale, la sardine, les cornes-bœuf, la tomate à boîte, la farine de maïs et les céréales. Témoignage des consommateurs qui généralement ne tiennent pas compte de la date d'expiration.
À un moment donné, tu achètes surtout des nourritures, par exemple peu de fois lorsque tu es pressé. C'est à la maison que tu remarques que c'est déjà périmé. Je ne m'intéresse pas trop à cela. Je rentre avec les produits à la maison sans voir la date d'expiration et je les mange même.
Un expert en santé, Dr. Charles Kisamba, indique que ces produits constituent un danger grave pour la santé humaine.
Ce qu'il faut faire d'abord, c'est utiliser le bon sens, c'est-à-dire regarder. Regarder l'aspect extérieur, regarder la farine, comment elle se présente. Une farine qui n'a pas été bien conservée, la couleur, une boîte de conserve, si elle est bombée, en principe c'est plat, il faut goûter.
Contacter le commandant de la police des crimes économiques à Bounia indique que son service est confronté à plusieurs problèmes pour exécuter sa mission, notamment l'obtention d'une réquisition délivrée par les parquets civils et militaires et les moyens logistiques. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Santé à présent, campagne de vaccination de riposte contre l'épidémie des rougeoles dans la zone de santé de Vanga depuis vendredi 17 juin sur près de 60 000 enfants de 6 à 59 mois attendus. Déjà, près de 50 000, soit 83% sont vaccinés jusqu'à mercredi dernier. Le médecin chef des zones de santé, Dr Blaise Masungu, qui a donné ses statistiques mercredi 22 juin, fait savoir que ces données sont partielles parce que d'autres aires de santé avaient débuté l'activité en retard, faute de transport des intrants, et vont la poursuivre jusque ce jeudi. Cependant, Dr Blaise Masungu indique que grâce à cette campagne de 5 jours, 8 cas de paralysie flasque aiguë, 3 cas de fièvre jaune et 12 cas de rougeole ont été notifiés dans la communauté. Irène Beaumont.
Débutée depuis vendredi dernier, cette campagne de vaccination contre la rougeole se déroule normalement dans la zone de santé de Vanga. Nous sommes au territoire de Bulungu, dans le Kwilu. Selon les médecins chefs de cette zone de santé, en attendant les rapports de quelques aires de santé qui ont commencé cette activité en retard, déjà 83% des enfants attendus sont vaccinés. Docteur Blaise Masungu.
Nous sommes à 83% des enfants vaccinés. Donc, il y a encore quelques rapports qui sont en souffrance. Donc, jusque-là, on a vacciné 49 014 enfants sur les 59 021 que nous attendons.
Docteur Blaise Masungu salue cette riposte contre l'épidémie des rougeoles à Vanga qui, selon lui, est une grande opportunité pour pouvoir faire aussi la recherche active des autres pathologies sous surveillance épidémiologique.
Pendant qu'on vaccine aussi, pour récupérer les enfants d'abord des PEF de routine et d'intensifier aussi la surveillance au niveau des communautés. Au cours de cette campagne, nous avons notifié 8 cas de paralysie flasque aiguë, 3 cas de la fièvre jaune, 12 cas aussi de rougeole.
En attendant, les médecins chefs des zones de santé de Vanga appellent les parents dont les enfants ne sont pas encore vaccinés à les faire vacciner pour les protéger contre la rougeole qui sévit dans ces coins. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
À Mbandaka, plus de 26 enfants sont en détention prolongée à la prison centrale et ratent ainsi les examens de fin d'année. Ils ont été arrêtés en mai dernier par les patrouilles mixtes FRDC-PNC. La plupart dans des débits de boissons fortement alcoolisées et autres lieux semblables. C'était dans le cadre des opérations initiées par le ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité contre le banditisme urbain communément appelé Kuluna. Pourtant, les parents indiquent que certains enfants ont été appréhendés dans ou aux environs de leur parcelle. Voilà pourquoi l'ONG Action pour la protection et l'encadrement de l'enfant est montée au créneau et plaide pour leur libération. Le secrétaire exécutif de l'APE, Marcel Toté, qui est allé plaider auprès du gouverneur de province, explique au micro de Paul Richard Malengela.
Ce qui est sûr, c'est que au niveau du parquet civil, il n'a aucune charge. Même au niveau de l'auditorat, il n'a aucune charge qui pèse sur les enfants. La place des enfants, ce n'est pas en prison, aussi détenu par les militaires, mais c'est mieux que les enfants là puissent être déférés devant les tribunaux pour enfants pour être jugés s'ils sont effectivement poursuivables. Au cas contraire, il faut les libérer pour qu'ils fassent les examens de fin de l'année en bonne et due forme. Mais s'ils ne font pas les... Donc, ils vont rater l'examen comme ça. L'enfant, c'est l'avenir de la nation. Les 26 enfants qui sont en prison, je pense que c'est mieux de les libérer ou bien de les déférer devant les tribunaux. Pour enfin, notre plaidoyer, c'est dans les deux sens là-bas. Pour le gouverneur, tant qu'autorité numéro 1 de la province, on devrait quand même les rencontrer. Lui-même était surpris. Il a été réceptif. Il a dit qu'il va s'impliquer pour qu'il puisse voir avec les autorités judiciaires pour voir comment libérer ses enfants ou bien les déférer devant les tribunaux pour enfants pour être jugés. Donc, le gouverneur venez informer. Toutes les autorités provinciales sont informées de la situation et nous attendons leur réaction. Je pense que d'ici peut-être fin de la semaine, on pourrait avoir une réaction positive. Dans le cas contraire, nous allons continuer les plaidoyers.
Dans le Nord Kivu, le réseau pour les droits de l'homme, REDO, alerte sur l'insuffisance des magistrats dans les tribunaux et parquets civils que militaires de Beni Butembo Lubero. Dans un communiqué publié ce mercredi, cette organisation de défense des droits de l'homme parle d'une situation qui affecte le fonctionnement de la justice dans la région. Grâce à Mzati pour les détails.
Dans son communiqué, le réseau pour les droits de l'homme dit que seulement 39 magistrats sont affectés dans les parquets et tribunaux civils et militaires des villes de Beni et Butembo, ainsi que des territoires de Beni et Lubero. Cette organisation de défense des droits de l'homme parle d'une situation qui est à la base de la lenteur dans le traitement des dossiers et la détention prolongée des détenus sans leur audition. Conséquence, pour se rendre justice, certains justiciables préfèrent recourir aux groupes armés et d'autres optent pour la justice populaire. Une situation qui accentue l'insécurité dans la région, précise le REDO. Cette organisation de défense des droits de l'homme recommande au président du Conseil supérieur de la magistrature d'augmenter l'effectif des magistrats à Beni, Butembo et Lubero. Elle demande également au ministère de la Justice d'améliorer les conditions de vie des magistrats et d'accélérer les processus de recrutement des nouveaux magistrats. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le vice-président et candidat à la présidentielle kényane, William Ruto, a déclaré qu'il expulserait les ressortissants chinois occupant des emplois qui pourraient l'être par des Kenyans s'il est élu en août. Les élections présidentielles, législatives et locales du 9 août se tiennent alors que la plus grande économie d'Afrique de l'Est fait face à des difficultés économiques causées par la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine. L'ambassade de Chine à Nairobi n'a pas répondu à une demande de commentaire de l'AFP. Âgé de 55 ans, William Ruto brigue la succession du président Uhuru Kenyatta qui ne peut se présenter à un troisième mandat. Le gouvernement tanzanien a annoncé mercredi lancer une opération contre les immigrants illégaux à Loliondo dans le nord du pays, soupçonnant des Maasai kenyans de traverser la frontière pour aider la communauté locale opposée à la création d'une zone naturelle protégée. Les bergers Maasai de Loliondo s'opposent aux autorités tanzaniennes qu'ils accusent de vouloir les expulser d'une partie de leur zone d'habitat historique pour en faire une zone réservée aux safaris et à des chasses privées. Le gouvernement dément et affirme simplement vouloir protéger de l'activité humaine 1500 km² sur les 4000 km² de cette région située entre la frontière avec le Kenya, le parc du Serengeti et la réserve naturelle des Ngorongoro.
L'invité.
Vous le savez peut-être déjà, puisque Radio Okapi l'a annoncé, le gouvernement provincial du Nord Kivu a suspendu depuis lundi dernier et jusqu'à nouvel ordre toute opération d'importation et d'exportation des marchandises via le poste frontalier de Bunagana à la frontière avec l'Ouganda. Le gouverneur propose aux opérateurs économiques des alternatives pour ces opérations. Pour en savoir plus, nous recevons le conseiller principal du gouverneur en charge des finances, Maître David Kamua Musubao, s'entretient avec Denise Lukeso à ce sujet.
Maître David Kamua, bonjour.
Merci Madame la journaliste.
Depuis lundi dernier, l'autorité provinciale a pris une mesure interdisant tout passage de marchandises par le poste frontalier de Bunagana, qui est aujourd'hui sous occupation des rebelles. Aujourd'hui, après cette mesure, quelle alternative que le gouvernement provincial a prise pour faciliter les opérateurs économiques à écouler leurs marchandises ou à exporter leurs marchandises?
La raison est toute simple, c'est que si on laisse cette frontière ouverte, c'est que nous allons permettre au M23 d'avoir les moyens de sa politique alors qu'ils sont en train de nous combattre. Et voilà pourquoi il était vraiment urgent que l'autorité provinciale prenne cette décision. Alors, quelle est notre alternative? Heureusement pour le Nord Kivu, nous avons plusieurs postes frontaliers officiels. Bunagana n'était donc pas l'unique poste frontalier. Juste à côté de Bunagana, il y a le poste frontalier de Ishasha, qui est très opérationnel depuis tout le temps et qui est d'ailleurs le plus ancien, plus que même Bunagana. Et donc, tout ce qui vient de l'Ouganda va devoir passer soit par le poste frontalier de Ishasha, soit emprunter la voie habituelle de la Grande Barrière. Pour ce qui concerne la route Ishasha, il y a deux semaines, nous sommes allés lancer les travaux de réhabilitation de cette route, puisqu'il y avait des petits bourbiers. Et aujourd'hui, cette route, elle est praticable, nonobstant quelques petits problèmes, mais l'Office des routes est à pied d'œuvre pour réhabiliter complètement cette voie qui va devoir être sollicitée par les opérateurs économiques du Congo qui viennent de l'Ouganda vers Goma.
Il y a des défis auxquels vont faire face ces opérateurs économiques. Vous avez déjà relevé l'état de la route, qui est l'un des défis. Est-il valable ces postes frontaliers pour les opérateurs économiques?
Non, je crois que je peux rassurer la population que c'est un poste qui est totalement opérationnel. La DGDA, l'OCC, le programme national de l'hygiène aux frontières, la DGM, la police des frontières, tous les services, ils sont toujours présents depuis très longtemps et sont toujours opérationnels. La différence, c'est qu'elle va devoir être plus sollicitée qu'avant. Je peux rassurer qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Effectivement, le plus grand défi, c'était la praticabilité de la route. L'Office des routes, heureusement, est à pied d'œuvre pour réhabiliter cette route qui est tout de même praticable à 100%. La plupart des véhicules qui importent les cimas de l'Ouganda empruntent la voie du Chacha depuis tout le temps. Il n'y a jamais eu de problème. Et donc, je peux rassurer que la route, elle est totalement praticable, quels que soient quelques petits soucis lorsqu'il pleut. Mais heureusement qu'il y a toute une brigade qui est opérationnelle de l'Office des routes pour parer à tout problème.
Et qu'en est-il de la situation sécuritaire, puisqu'on décrit l'activisme des FDLR sur ces tronçons, des Maï-Maï parfois aussi, qui insécurisent la région?
Je crois qu'à Rutshuru, le groupe le plus dangereux aujourd'hui, c'est le M23. Pour le moment, les FDLR ne sont pas très actifs en termes de barrer la route aux véhicules. On n'a pas appris ces derniers temps, depuis plusieurs mois, qu'il y ait des soucis dans ce sens. Donc, je peux vous rassurer que ça ne pose pas de soucis à ce stade ici. Et l'autorité provinciale a pris toutes les dispositions, effectivement, pour renforcer la sécurité de ce côté-là. La brigade qui est opérationnelle là-bas, elle est vraiment à pied d'œuvre pour se rassurer qu'aucun problème de sécurité ne va se poser sur cet axe.
Vous garantissez les opérateurs économiques qui vont d'ores et déjà utiliser ou emprunter les postes frontaliers des Chacha de leur sécurité?
Je ne peux pas dire que je les garantis maintenant. Ils ont toujours passé par là. Ce n'est pas une nouveauté, madame. La seule nouveauté, on a interdit les importations et les exportations à Bounagana. Donc, ceux qui étaient habitués à Bounagana vont devoir certainement se rendre à Ishacha. Mais Ishacha était toujours opérationnel. Et donc, de la même manière qu'ils passaient, je crois qu'ils vont continuer à passer sans problème.
Parlez-nous du fonctionnement de ces postes frontaliers de Ishacha. Comment fonctionnent-ils par rapport à d'autres postes frontaliers?
Non, c'est le même mécanisme pour tous les postes frontaliers. Tous les services qui interviennent à la frontière font chacun son travail et ils font les perceptions. Et la marchandise vient normalement, elle est escortée par la brigade douanière jusqu'au lieu du déchargement ou jusqu'à l'entrepôt qui est à Goma.
Terminons avec l'importance de ces postes frontaliers d'Ishacha. Quelle est son importance pour la recette de la province?
Les postes frontaliers importants du Nord Kivu, il y a d'abord la grande barrière de Goma, le poste de Kasindi, il y a le poste de Bounagana qui vient à troisième position, et enfin le poste de Ishacha. Mais cela dépend d'une période à une autre. Il arrive que le poste de Ishacha soit troisième avant Bounagana. Cela dépend de la qualité de la route, cela dépend aussi de l'origine des importations. Alors, je peux dire que donc c'est la quatrième voie d'entrée en termes de recettes fiscales par rapport aux autres postes que je viens de citer.
Maître David Kamoua, merci d'avoir répondu aux questions de Radio Kapi.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Voilà comment se referme cette édition de journal. Billy Van Lutumba était devant ce micro pour la présentation. Je vous dis sincèrement merci.